des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Du Trisac. Un animateur pas comme les autres.
Cube Radio.
Allons directement à Barcelone joindre Luc Gagnon, qui est vice-président sciences et vaccins chez Nexcellis. Monsieur Gagnon, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous assistez au World Vaccine Congress 2021, c'est la 22e édition. Alors, expliquez-nous en quoi consiste cette conférence.
En fait, c'est un congrès international qui permet de regrouper les différentes sommités mondiales dans du vaccin, et incluant les autorités réglementaires de type FDA ou Santé Canada, Santé publique de l'Angleterre et compagnie, incluant les chercheurs académiciens, de manière à répondre à certains besoins au niveau vaccin. On peut comprendre que la plupart des discussions tournaient autour de la COVID, malgré qu'il y avait quand même d'autres vaccins qui étaient discutés également.
Et vous, Nexcellis, là, expliquez-nous en quoi ça consiste, là, pour qu'on ait une idée de votre implication dans toute cette industrie du vaccin.
Bon, Nexcellis, on est spécialisé dans l'évaluation des efficacités de vaccins. On n'a pas de centre de recherche clinique, donc on ne reçoit pas aucun sujet. Ce qu'on reçoit, par contre, c'est les prélèvements de ces sujets-là, que ce soit des prélèvements nasopharyngés, ou principalement du sérum des gens qui ont participé à des études cliniques. Donc, nous, ce qu'on est, on est à l'aveugle, on reçoit des échantillons et on vérifie la quantité d'anticorps qui a été produit lors des différents schémas de vaccination, que ce soit dans des nouvelles compagnies ou dans des compagnies qui sont déjà en place pour ce qu'on appelle la persistance, voire le niveau d'anticorps après un certain temps. Et on a dans nos laboratoires, on évalue près de 80 vaccins pour la COVID, mais on a au-dessus peut-être de 150-200 vaccins qui couvrent d'autres maladies également.
Vous êtes à 80 vaccins, vous évaluez des échantillons de 80 vaccins, pas canadiens seulement?
Non, on a du canadien, en fait c'est un peu partout à travers le monde, dans tous les continents. Faut savoir que si les vaccins principaux... Moderna, Janssen et Pfizer sont déployés. Il y a encore des besoins dans certains pays. Et l'autre chose, c'est qu'ils travaillent déjà sur les nouvelles générations, soit pour contrer des variants ou contrer d'autres types de coronavirus, parce qu'on sait qu'il n'y a, pas seulement le SARS-CoV-2. Donc, ils travaillent sur ce qu'ils appellent des pan-coronavirus. Donc, il va y avoir des actions croisées avec tout ce qui existe en termes de coronavirus.
Alors, c'est la dernière journée, là. C'était du 19 au 21 octobre à Barcelone, en Espagne, le congrès mondial du vaccin. Vous, M. Gagnon, j'imagine que vous avez eu des rencontres avec Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. C'est quoi le bilan de cette rencontre-là?
Ben, en fait, le souci est relié évidemment à la propagation et le développement des différents variants. Et la question demeure pour tout le monde, quelle sera la nouvelle génération de variants? Parce que c'est pas l'entièreté de la population qui est vaccinée. La circulation du coronavirus se poursuit. On voit que le coronavirus s'adapte facilement à différentes situations et engendre des nouvelles générations de variants, que ce soit des variants d'intérêt ou des variants qui sont de notoriété publique pour avoir des problèmes au niveau santé ou au niveau des comme le Delta, là, qui se dissémine beaucoup plus rapidement. Donc il y a des modèles de simulation pour voir quelles pourraient être les prochaines mutations qui pourraient apparaître, quelles seraient les mesures en place pour non seulement la pandémie actuelle, mais les futures pandémies, déployer les outils dans un meilleur laps de temps. Déployer des réseaux de laboratoires comme le nôtre qui permettraient d'analyser les échantillons cliniques dans une manière beaucoup plus rapide, de manière à ce que les vaccins soient déployés et contrer ces pandémies-là de façon plus efficace.
Mais comment ça se fait, M. Gagnon, là, qu'on a quoi, là, à peu près en Occident, là, 4 vaccins AstraZeneca, Pfizer, Moderna, puis Johnson & Johnson? Si vous me dites que vous analysez 80 vaccins à travers le monde, où sont les autres?
Les autres ont toujours en phase clinique. Ils n'ont pas été encore approuvés par les autorités réglementaires. Ils utilisent des stratégies qui sont légèrement différentes de l'ARN messager ou des protéines classiques. Ça pourrait être des vecteurs hybrides, ça pourrait être des multiples composantes, ça pourrait être parce qu'on sait que dans la réponse immunitaire, on regarde deux choses. Soit la réponse qu'on appelle humorale, c'est la production des anticorps, c'est ce qui est le plus rapide et facile à déployer en termes de vaccin. Mais il y a la réponse qu'on appelle cellulaire, qui est une réponse un peu de, si on pourrait la comparer à un tank, c'est une réponse qui est beaucoup plus massive que en ce sens qu'elle va protéger beaucoup mieux. Et à beaucoup plus long terme, là, parce que ça va être une réponse qui est légèrement différente. Donc, c'est une combinaison des deux. Ça permet d'avoir encore de meilleures protections. Et on a des vaccins qui sont vraiment des modèles. Le vaccin pour le Zona en est un, qui permettent justement de stimuler les deux côtés du système immunitaire.
Est-ce que les vaccins là, sont toujours en retard sur les mutations? Restons sur le coronavirus, M. Gagnon. Là. Est-ce que c'est inévitable que les vaccins soient toujours en retard ou on peut prévoir les variants et les nouveaux variants à venir?
C'est la beauté. Là. En fait, là, ce qui arrive présentement, c'est qu'à la surface du virus, il y a une molécule qui s'appelle la spicule, c'est la spike, et c'est les mutations qui apparaissent. En fait, ce que ça fait, c'est que cette molécule-là, à la surface du SARS-CoV-2, permet de l'attachement du virus aux différentes cellules. Et le problème, c'est que les mutations surviennent et les vaccins actuels sont basés sur la souche initiale du coronavirus. Donc, oui, pour répondre à votre question, les mutations sont beaucoup plus rapides que ce que le vaccin est capable de suivre. Mais la nouvelle génération de vaccins va non seulement cibler la spike, mais d'autres molécules importantes. De manière justement à éviter ou au moins contrecarrer la vitesse à laquelle les mutations apparaissent.
Mais OK, mais sauf erreur, M. Gagnon, là, tout le monde est épaté par la rapidité avec laquelle on est arrivé. Les compagnies pharmaceutiques sont arrivées avec des vaccins efficaces, relativement sûrs. Qu'est-ce qu'on a compris dans un laps de temps si court qu'on n'a pas compris au cours des dernières décennies ou dernières années? C'est juste une question de technologie?
Technologie. En fait, la technologie de l'ARN messager était déjà présente, mais principalement pour des vaccins pour le cancer. Ça n'avait jamais été approuvé dans le cas d'un vaccin qui s'appelle prophylactique, en fait, qui permet d'être en prévention. Et là, ça a complètement révolutionné le monde du vaccin parce que tous les autres ont emboîté le pas à Pfizer et à Moderna. On a une panoplie de pharmaceutiques et de petites boîtes qui ont décidé de se lancer également dans l'ARN messager, non pas seulement pour le coronavirus, mais pour les autres vaccins qui sont également déployés. Là.
Comme le vaccin contre le papillon humain, c'est un vaccin pour prévenir le cancer chez la femme. Est-ce que ça a aidé à développer les vaccins contre le coronavirus?
Le vaccin Gardasil, qui est principalement utilisé pour le cancer du col. C'est un vaccin qui appelle des VLP, c'est des particules semblables à des virus. Et cette technologie-là, elle est complexe parce que dans le fond, ça prend un assemblage tridimensionnel pour avoir la bonne conformation. Il y a des compagnies qui utilisent une technologie similaire. On pense à Medicago. Medicago utilise une technologie similaire pour leur vaccin. Mais ce qu'on voit, c'est que dans le cas je reviens sur l'ARN messager, c'est une molécule chimique qui est envoyée dans le corps humain et c'est le corps qui va produire la molécule en trois dimensions. Donc, elle va être dans une conformation idéale parce que ça va être le corps même qui va produire au même titre que c'est le corps qui produit le virus finalement parce que le virus est un parasite. Donc, ça permet d'éviter d'avoir à produire in vitro une molécule qu'on doit s'assurer d'avoir une structure tridimensionnelle. Par contre, il y a certains avantages, et il s'est éprouvé dans certains dans les vaccins qui sont déjà commercialisés, que cette technologie-là marche également. Donc, avant que ces produits-là soient détrônés, ça va quand même prendre quelques années, on s'entend.
Dis donc, M. Gagnon, est-ce que pour assister au World Vaccine Congress, il fallait être vacciné?
Oui.
J'espère bien.
Une des conditions sine qua non. Non seulement ça, il offrait des tests de dépistage COVID, évidemment, sur place. Le port du masque était obligatoire en tout temps. distanciation sociale. Et bon, ça compliquait évidemment la tenue du congrès, mais les organisateurs ils ont suivi les règles de la santé publique.
Tant mieux. Est-ce que la production de ces vaccins contre le coronavirus, là, vous nous dites qu'il y a ceux qui sont utilisés là, et ceux qui sont en test clinique. Est-ce que ça va influencer la recherche envers d'autres maladies?
Oui. On le voit déjà, là, je vous le dis, là, les compagnies qui ont commencé à travailler sur le coronavirus ne se sont pas limitées qu'au coronavirus. Évidemment, de par le succès de la réponse immunitaire, ils veulent engendrer le pas pour, exemple, le vaccin de la grippe, le vaccin même des vaccins contre la méningite ou contre la pneumonie, des vaccins pour la bactériose. Donc, ils veulent vraiment élargir le tout de manière à avoir des vaccins beaucoup plus efficaces. Parce qu'il faut comprendre que la production d'un vaccin ARN messager est beaucoup plus rapide que n'importe quelle autre production au niveau protéique ou au niveau viral. Parce que les virus atténués ou les virus tués, c'est également un moyen de vacciner les gens. Mais il y a une complexité associée au fait qu'on travaille avec du vivant. Là.
Est-ce que vous comprenez les anti-vax? Est-ce que vous avez des... J'imagine que vous avez eu des conversations dans votre entourage, M. Gagnon, là, des soupers de famille ou des parties, ou un peu de parties, là, on n'a pas eu beaucoup, mais tu sais, des gens là à qui vous êtes cogné quand c'était le temps de parler des vaccins?
Bon, moi, je ne vends pas de vaccins, là. Je peux vous rassurer.
Ouais.
C'est sûr et certain que... ces personnes-là, puis je veux pas dénigrer personne, je veux pas créer un débat politique. Les personnes vont toujours trouver les bonnes argumentations pour pouvoir démonter ou débouter la commercialisation des vaccins. N'empêche que ce qu'on voit dans la population, les vaccins ont permis de sauver des vies. Ils ont permis à des populations entières, que ce soit pour le SARS-CoV-2 ou pour que ce soit d'autres vaccins, ça a permis de sauver des vies.
Ouais.
Donc, il y a un avantage qui est beaucoup plus du côté des vaccins que les risques qui y sont associés. Il y a des gens qui peuvent mal réagir à certains vaccins, et ça, c'est ce qu'on essaie de démontrer dans les études cliniques, de mitiger les risques qui sont associés aux vaccins. Mais le risque est toujours en faveur de déployer un vaccin plutôt que de laisser déployer la maladie. Juste donner une idée, là. Quand la souche Wuhan a démarré en 2019, là, il fallait être dans une salle pour à peu près 15 minutes avec quelqu'un qui était contaminé avant d'être potentiellement infecté. Alors que maintenant, le variant Delta, là, c'est une seconde.
Ah.
Ça veut dire que les gens qui sont pas vaccinés ou les gens qui n'ont pas été protégés parce que les vaccins, là, ils protègent à peu près à 90%, fait qu'il y a quand même 10% des gens qui demeurent sensibles, eux, ils pourraient être infectés à nouveau. Ils pourraient être mis en contact. C'est sûr que la sévérité du Delta n'est pas comparable à celle du sud du Beta qui est en Afrique du Sud. Mais n'empêche que si les deux choses se croisent et les mutations apparaissent, on pourrait vivre un autre épisode où est-ce qu'il y a plusieurs décès. Là.
Est-ce que la grande préoccupation de ce congrès, M. Gagnon, là, en conclusion, ce sont les variants puis les variants à venir aussi?
Et en fait, il y a deux volets. Effectivement, les variants et les variants à venir et comment les contrecarrer. Quelles sont les stratégies à déployer, à mettre en place? Parce que, comme je vous disais, les agences de santé publique sont ici. L'Organisation mondiale de la santé était également au congrès, présentait. Et ça, c'est le premier volet pour dire, OK, dans l'actuel, qu'est-ce qu'on fait? Et aussi bâtir pour le futur. Quelle est la meilleure option pour... Exemple, il y a un nouveau variant qui arrive, mais il est vraiment plus sévère et il n'y a aucun des vaccins qui fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce qu'essaie de faire. En fait, il y a une initiative qui a été lancée, déployer un vaccin en 100 jours. C'est vraiment rapide. Là.
Ouais, tantôt je parle au docteur Joanne Liu, Monsieur Gagnon, là, qui appelle les pays à partager les doses. Et je disais qu'il y a 37% de la planète qui a été vaccinée. Est-ce que ça préoccupe là, la disparité entre les pays pauvres, les pays riches dans l'attribution des doses contre le coronavirus?
C'est sûr que c'est une problématique qu'on vit présentement. Et sans nommer de compagnies pharmaceutiques, il y a des vaccins qui arrivent près de l'expiration, de leur date d'expiration, là, et que les compagnies sont prêtes à donner les vaccins à vendre à rabais à des pays qui pourraient être potentiellement déficitaires en termes de vaccins, qui n'ont pas accès aux doses, mais il y a un problème éthique. Est-ce qu'on est prêt à donner des vaccins qui sont expirés à des gens qui n'ont pas les moyens de s'en procurer? Donc, ça devient un cercle vicieux, là. Fait qu'il y a cette problématique-là. C'est pour ça qu'il y a toujours d'autres manufacturiers qui sont en train de produire à travers le monde. Puis, je disais, il y a des gens qui arrivent de l'Asie, il y a des gens qui arrivent de l'Afrique. Mmh. Il y a plusieurs manufacturiers qui se manifestent de manière, justement, à essayer de monter la quantité de personnes qui seront vaccinées et protégées à travers la planète,
là. OK, je vous pose la question. Je sais que j'aurai pas la réponse, là. Mais pour vous, Luc Gagnon, quel est le meilleur vaccin contre la COVID-19?
C'est une question. Non, je vais vous répondre. Puis c'est basé sur les publications qu'on a vues dernièrement. Pfizer et Moderna sont nés à nez. Par contre, ce qu'on voit, il y a eu une très grosse étude qui a été effectuée par le Vaccine Task Force en Angleterre, où est-ce qu'ils ont mélangé des vaccins avec des Astra de ce monde, des Pfizer, pour essayer de voir est-ce qu'il y aurait des combinaisons qui permettrait d'avoir des meilleures protections. Effectivement, c'est ce qu'on voit. Il semble y avoir un gain à mélanger un ou deux vaccins de manière justement à augmenter le taux d'anticorps. Parce que la problématique, c'est le variant qui s'y rattache. Parce que la plupart des gens sont encore dans la conformation de la souche sauvage. Et à la fin de la journée, ça veut dire que les anticorps sont produits contre la souche sauvage. Donc, si t'es mis en contact avec Delta, peut-être que les anticorps ne seraient pas très efficaces. Mais si le niveau d'anticorps est très élevé, ben tu permets de protéger. Un peu comme on va à la guerre, on a des armes ultramodernes, prend moins d'armes pour éliminer les soldats ennemis. Ouais. Par contre, on est 1 million avec des lances, on va finir par gagner la guerre, mais ça va nous coûter cher.
Je comprends. Fait que si j'ai eu 2 AstraZeneca, si j'ai une troisième dose, il faudrait que j'aille chercher Moderna ou Pfizer.
Ben, ça va être publié, puis ça va être selon les recommandations également de la santé publique de l'Angleterre.
OK.
Et on travaille avec ce groupe-là pour analyser ces échantillons-là.
Très bien. Alors, ça a valu la peine de se déplacer à Barcelone?
Oui, oui, sans contredit. En fait, j'avais pas le choix, je présentais.
Ah oui? Vous avez présenté quoi?
C'est une des méthodes qu'on utilise pour justement vérifier l'efficacité de ces vaccins-là. Parce qu'on a analysé à date d'aujourd'hui tout près de 60 000 échantillons. Donc,
bon, 60 000 échantillons, et vraiment, là, c'est la guerre contre la COVID-19 et c'est la guerre pour les prochaines décennies à venir aussi, hein, ce que je comprends.
Oui, ouais. Effectivement. On s'entend que le corona est là pour rester pour quelques années. La question est de savoir est-ce qu'il va être cyclique un peu comme la grippe ou il risque de demeurer persistant à travers les saisons. C'est la question qui demeure.
Très bien. On cesse là-dessus. Luc Gagnon, vice-président de sciences et vaccins chez Nexcellis. Merci, M. Gagnon. Merci de nous avoir parlé.
Merci. Bonne journée.